Radio Cassette, la bande son des 90s.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Ici, on rembobine nos cassettes et on vous raconte l'histoire inédite des albums qui ont marqué les années 90. Dans cet épisode, on va vous parler d'Elliott Smith, le songwriter le plus discret des 90s. Après quelques années passées au sein du groupe Hit Miser, Elliott Smith décide assez tôt de poursuivre son art en solitaire, à l'image de son mode de vie à des années-lumière de toute idée de pression ou de carrière. La reconnaissance lui tombe dessus en 97 avec l'apparition de Either Or, un troisième album époustouflant, mais aussi grâce à une rencontre avec le réalisateur Gus Van Sant qui va changer sa vie et lui valoir une nomination aux Oscars. Elliott Smith, à contre-courant du grunge qui envahit la planète et les années 90, déploie dans ses compositions un univers poétique, sombre et délicat comme Ballad of Big Nothing, Angelus, Say Yes ou Between the Bars, plusieurs fois reprises par Agnès Obel, Pearl Jam ou même Madonna. Décédé en 2003 à l'âge de 34 ans, Elliott Smith a véritablement marqué l'histoire du rock alternatif. Et ce Beautiful Loser, loin des radars, mérite d'être célébré au même titre que Nirvana ou Jeff Buckley. Either Or, on en parle tout de suite maintenant avec le Cassette Crew, Fanny.
Hello.
Grégoire.
Salut tout le monde.
Et Olivia.
Salut.
Alors, Olivia, tu vas nous raconter quoi ?
Eh bien, moi, je vais vous parler de Kierkegaard et de cheveux gras.
Ok, très bien, sortez vos manuels. Et toi, Greg, où est-ce que tu nous emmènes ?
Alors, avec moi, on ira à Portland pour comprendre pourquoi Either Or est le chef-d'œuvre d'Elliott Smith.
Et en fin d'émission, on retrouvera Fanny.
Et moi, je vais vous parler de shots de bar graffités et d'un taureau qui aimait les fleurs.
Tiens, tiens, tiens. Allez, c'est parti, sortez les mouchoirs. On va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious.
We'll be right back.
Mais quelle merveille! Ah là là!
Ah, c'est cool, hein! Alors voilà pour les 12 morceaux de Either Or. C'est donc le troisième album solo d'Eliott Smith. Il sort le 25 février 1997 en CD et vinyle sur le label Kill Rock Stars, qui est encore aujourd'hui indépendant. C'est un super label, c'est celui de Gossip et de Bikini Kill.
Super ref.
C'est un label de filles, en fait.
Avec beaucoup, effectivement,
de filles. De groupes féminins, ouais.
Effectivement, qui est dirigé par des meufs, maintenant.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'Eliott Smith, c'était leur premier artiste masculin, si je ne m'abuse.
Excellent.
Go
excellent.
Girls.
Alors l'année 97, c'est une super année pour le rock indé. Hein. Chez les disquaires, Eliott Smith se retrouve à côté d'un autre groupe de Portland, c'est les Dandy Warhols avec Calm Down. Il y a aussi le Boatman's Call de Nick Cave. Il y a Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space de Spiritualized et le OK Computer de Radiohead, bien évidemment. Spéciale dédicace à nos premiers auditeurs.
On les embrasse.
Alors, 1997, dans les charts en France, c'est surtout le carton de IAM, Era, Céline Dion, les Tube Free et Pascal Obispo.
Eux aussi, on les embrasse.
Et gros fait divers, Obispo, cette année-là, il se fait tirer dessus à Ajaccio.
Comme Tupac.
Comme Tupac. Comme Tupac, sauf que...
C'est pas
règlement de compte dans la variété.
C'est alors... pas la même mythologie. Hein.
C'est Paul Naref qui lui tire dessus parce qu'il lui
a fait ça, Michel.
Il se fait tirer dessus, donc c'est avec une carabine à plomb lors d'un concert en plein air. Le mec en fait a 19 ans et apparemment il n'aimait pas sa musique.
Ils sont beaucoup quand même,
ça arrive.
A pas aimé sa musique.
Pascal Obispo, heureusement, on n'a rien.
Ça n'excuse
continuer,
pas la violence.
Et il reviendra quelques années plus tard rejouer à Ajaccio.
Ah.
Alors côté cinéma, en 97, on se régale, on va voir Le Cinquième Élément, Men in Black, Scream, ou La Vérité si je mens.
Je les ai tous vus. Bah oui.
Plusieurs fois.
Au cinéma, là-bas.
Et il y a un petit film qui commence à faire parler de lui en fin d'année, un certain Titanic de James Cameron. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu autour de cette table.
Oui. Trois fois au cinéma.
Ouais. Quel groupie.
Trois fois trois.
C'était Tim Leonardo, toi?
Ah bah évidemment.
Ah ouais.
Folle amoureuse.
Oh là là.
Allez, on va commencer par embobiner vos souvenirs et faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Grégoire. Eliott Smith, ça t'évoque quoi?
Écoute, en tout cas dans les années 90, je suis passé complètement à côté. J'écoutais Nirvana, j'écoutais Rage Against the Machine, mais je pense que Eliott Smith c'était un peu trop indé pour moi. J'avais quoi? J'avais 10-12 ans, voilà. Moi, je suis né en 85, donc c'était un peu trop indé pour moi. Et Eliott Smith, j'ai découvert, je pense, il y a 5 ou 6 ans.
Non.
Ouais, non, mais vraiment.
Mais non.
Ah ouais.
Mais ce qui est fou,
okay. Oh, le
c'est
nul.
Que bah ouais, je sais. J'ai un peu honte, mais voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est fou, c'est que quand j'ai découvert Eliott Smith, ça m'a fait la même chose que quand tu es ado et que tu découvres un groupe génial et tu n'écoutes que ça. Pendant, voilà, tu réécoutes les mêmes chansons.
Genre les Beatles, par exemple, que tu découvrirais à l'adolescence.
J'ai nourri une sorte d'obsession adolescente pour Eliott Smith.
Mais à 30 ans.
Ouais, c'est ça. Et ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. Et ça a été extraordinaire, quoi. Ça a été extraordinaire de vivre ça. Et je l'ai découvert avec cet album qu'on chronique aujourd'hui, Either Or. Et ça a été un peu une révélation. Et je te dis, l'impression de retourner en adolescence, d'être complètement obsédé par un artiste, d'aller chercher des infos sur lui, d'aller regarder des vidéos, d'aller regarder des interviews. Alors, je suis pas allé jusqu'au poster, mais voilà, les morceaux qu'on a envie de chanter, les vinyles. Enfin voilà, quoi, vraiment l'obsession adolescente pour Eliott Smith, mais à 30 ans. Voilà.
Ok, marrant, donc ça. Une sorte d'épiphanie musicale pour toi, Grégoire. Ah, ouais. Je me retourne vers toi, Olivia. Quel souvenir ça t'évoque?
Alors, rien du tout. Voilà.
Non. Ok.
Bisous, à bientôt. Je suis hyper contente de participer
non,
à ce podcast.
Non, mais dis un truc,
invente
un truc.
Ouais,
genre...
je l'ai vu en concert, ouais.
Non.
Ouais.
Non, vraiment rien de rien.
Non, rien. Alors, bon, après, je vous en parlerai plus longuement, mais je connais en effet les films sur lesquels il a travaillé. On en reparlera tout à l'heure. J'ai certainement entendu ça. Musique, mais c'est un grand mystère absolu de comment j'ai pu passer à côté de Eliott Smith. Je n'ai aucune explication à vous donner, monsieur le commissaire.
Et ben c'est justement un des mystères qu'on va essayer de percer hein, dans cette émission. Et du coup, je me tourne vers toi, Fanny, que je crois que tu connais bien Eliott Smith. Raconte-nous comment ça a commencé.
Moi, je suis tombée sur lui genre à 18-20 ans, un moment où j'ai découvert beaucoup de musique différente et j'écoutais beaucoup de folk et de l'indie folk, Sufjan Stevens et Eliott Smith. Et j'ai découvert aussi à ce moment-là la blogothèque. Mmh. que... Et il y avait un concert emporté de Chris Garneau qui faisait une reprise de Between the Bars. Alors, je ne sais pas si c'est cette reprise-là qui m'a amenée à Elliott Smith ou si je le connaissais déjà avant, parce qu'il y avait aussi Madeleine Perrot qui avait repris Between the Bars sur un album jazz que j'écoutais beaucoup. Donc, je ne sais plus raccrocher le wagon exactement de comment j'ai découvert, mais en tout cas, clairement, voilà, 18-20 ans, j'écoutais déjà cet album-là, qui est un de mes albums cultes, tout simplement. Donc, je suis extrêmement heureuse de le partager avec nos auditeurs aujourd'hui.
Là, bah écoute, c'est charmé. Eh ben, écoute,
moi,
de mon côté, j'ai du mal à tracer, mais je pense que c'était vraiment fin des années 90, début 2000. J'ai des copains qui écoutaient ça via les BO dans le ciné. Il y avait, j'écoutais sur Wii FM, t'avais le morceau Son of Sam qui passait sur son dernier album Figure 8. Voilà, mais jamais jusqu'à percer, aller très loin à fond dedans, quoi. Et je pense que c'est que après sa mort que j'ai rattrapé le wagon, le train en marche, en fait, comme pas mal de personnes. Alors, on va maintenant vous raconter l'histoire incroyable d'Elliott Smith, mais pour bien en comprendre tous les ressorts, il faut remonter en 1969 dans le Nebraska.
Le 6 août 1969, plus exactement, mon cher Manu, date de naissance du petit Elliott, ou plutôt du petit Stephen Paul Smith de son vrai nom. Sa mère est institutrice et son père étudiant en médecine. Très vite, ses parents divorcent et son père entre dans l'US Air Force. Il est envoyé aux Philippines en tant que médecin. Stephen et sa mère déménagent au Texas. Elles se remarient rapidement, mais le nouveau beau-père est plutôt du genre violent. Cette période va beaucoup le marquer, il l'évoquera d'ailleurs souvent dans ses chansons. Le petit Stephen commence le piano et la guitare à l'âge de 9 ans et 4 ans plus tard, il écrit sa toute première chanson. Ado, il écoute Bob Dylan, Kiss, The Clash, Elvis Costello, Hank Williams, mais surtout les Beatles. Ça, c'est vraiment sa grosse référence, celle qui va habiter toute son œuvre. Greg, d'ailleurs, va nous en parler un peu plus tard. À 14 ans, Stephen déménage à Portland, dans l'Oregon, pour vivre avec son père. La musique fait de plus en plus partie de sa vie. Il enregistre même une chanson, I Love My Room. C'est juste un ado qui parle de sa chambre, qui explique pourquoi il s'y sent bien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment assez mignon. On l'écoute tout de suite. I love my room, yeah. I really do. I can just come right in and sit right down and open my window and see the town. I love to open the shutters wide in the summertime. I only dream when she comes out at night. I sleep in a tempest to never feel right. Putting my mind to rest takes a lot of time. They tried to keep us on a tether. They thought what we had come to watch the leather. All I ever wanted was a plurality. And all I ever get is everything but company.
Il était doué, hein,
ah ouais.
Incroyable.
Il a du talent.
Tu disais, ça faisait comédie musicale.
Ouais,
mais grave,
vraiment.
Ça,
ouais. Hyper narratif comme ça. Ouais, ouais. Il explique pourquoi il aime sa chambre.
Elliott Smith, la comédie musicale,
ah ouais.
Quoi. Incroyable.
Joyeux, on l'a jamais entendu. Ouais.
Là, il a quel âge là?
Là, il a 14 ans.
Wow.
Mais il y a déjà sa voix. Bon, il y a un truc d'ado qui mue encore dans sa voix, mais il y a aussi la voix d'Elliott Smith
qu'on
connaît plus
tard. Il donne des petites couleurs jazzy comme ça, un peu.
Mais à fond. On dirait la nouvelle comédie musicale de Damien Chazelle.
C'est quand
après La La Land, découvrez. Génial.
Donc, au lycée, il joue dans un groupe appelé Stranger Than Fiction. C'est aussi à ce moment-là qu'il décide de changer de prénom pour se rebaptiser Elliott en hommage au poète américain T.S. Eliot. Elliott Smith ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Il se lance sans grande conviction dans des études de philosophie et de sciences politiques.
Cela m'a prouvé que je peux faire pendant 4 ans quelque chose dont je n'ai absolument pas envie, même si j'ai apprécié ce que j'ai appris. À l'époque, aller à l'université m'apparaissait comme la chance d'une vie. Mais j'y étais surtout allé à cause de ma petite amie et nous avons finalement rompu avant le premier jour des cours.
Pas de bol quand même.
Non, c'est pas de bol. Le pauvre.
Bon, il va quand même aller jusqu'au diplôme. Et puis après, là, bizarrement, il va commencer à travailler dans une boulangerie de Portland. Mais il n'oubliera jamais la musique et va devenir le chanteur du groupe Heat Miser. On en a parlé dans l'introduction. Leur musique, punk, voire grunge, est très vite comparée à celle de Fugazi, comme en témoigne ce super titre Blackout qu'on écoute tout de suite.
Très grunge, ouais, ça me fait
ouais.
Ça me fait penser à Silverchair un petit peu.
Ça tabasse, hein. Ça change. Là, il est sorti de sa chambre et a fini le fini le piano, là, ça envoie du bois, quoi.
Bah justement, frustré de pas pouvoir faire exactement la musique qu'il voudrait, il est rattrapé par l'envie d'écrire ses propres chansons et de voler de ses propres ailes. Des mélodies, vous vous en doutez, plus douces, plus romantiques, à l'opposé du grunge de l'époque, incarné par
Nirvana.
Bravo, Fanny.
Je sais que vous m'attendiez.
Incroyable sur ce jeu-là. Sans arrangement et guitare électrique, ses compositions se démarquent fortement de son précédent groupe et les thèmes de la dépendance aux drogues, de la dépression ou encore de la trahison commencent à s'installer.
Alors nous sommes en juillet 94 et Elliott Smith sort son tout premier album, Roman Candle, qui commence comme ça. He played himself, didn't need me to give him hell. He could be cool and cruel to you, and me knew we'd put up with it. I wanna hurt him, I wanna give him pain. I'm a Roman candle, my head is full of flame.
Il y a quelque chose de Simon & Garfunkel dans sa voix. En fait, c'est un peu le Simon & Garfunkel de l'ère grunge.
C'est à la fois Simon et Garfunkel, c'est ça que tu veux
les
dire
deux. C'est Paul Simon, précisément, puisque tu poses la question.
Cet album, à la base, c'est surtout un recueil de démos qui n'avaient pas leur place dans le répertoire d'Heat Miser. C'est sa petite amie, donc à Elliott Smith, qui le convainc à l'époque d'envoyer la cassette à la maison de disques Cavity Search Records. Le patron du label, Christopher Cooper, tombe immédiatement sous le charme. À partir de ce moment-là, Elliott Smith n'arrête plus d'écrire et d'enregistrer, un vrai bourreau de travail. Un an plus tard à peine, boum, le deuxième album, intitulé simplement Elliott Smith, sort sur le label Kill Rock Stars. Même simplicité que Roman Candle et cette voix toujours à la limite du murmure. Sa notoriété se fait essentiellement grâce au bouche à oreille. Il commence à se produire sur les petites scènes locales de Portland. Il est seul avec sa guitare et s'excuse presque de déranger. Elliott Smith, c'est une petite frappe au grand cœur, une sensibilité à fleur de peau, l'impression que tout pourrait se briser très rapidement et d'un revers de main. Je vous propose d'écouter un extrait de Needle in the Hay.
Arm, a stack charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay.
Needle in the Hay, c'est le morceau préféré de Johnny Depp.
Ah ouais.
Ouais, j'avais écouté une interview de Johnny Depp et lui, c'est un gros fan d'Eliott Smith et c'est son morceau préféré. Voilà, je voulais petite fun
merci.
Fact. Voilà, merci.
Non, c'est un super morceau. Hein. Franchement, ouais, c'est pas génial. La grosse patate hein, quand tu sors de ce morceau, mais waouh, wow, ce qu'il arrive à faire quoi.
Tout Eliott Smith, non ? Je suis pas d'accord. Il y a plein de trucs très joyeux dans Eliott Smith.
Très bien. On va enchaîner avec toi, Olivia.
Les deux premiers albums solo d'Eliott Smith ne se font pas encore de manière tout à fait assumée. Il tourne encore pas mal avec son groupe Hid Miser et mène donc les deux projets en parallèle. Mais Eliott Smith s'identifie de moins en moins au groupe. Et puis, petit à petit, son nom se met à circuler comme une curiosité du rock indé US. Il part notamment en tournée avec Sebado en 96. Et certains comme Fugazi et les Beastie Boys rendent hommage à ses performances tout en force et en douceur.
Nous sommes maintenant en février 97 et Eliott Smith sort son troisième album en 3 ans, ou presque. Il s'appelle Either Or et il est précédé par un premier single en 45 tours, Speed Trials.
Qui pourrait donc se traduire par « ou bien » est une référence au livre éponyme du philosophe danois Søren Kierkegaard.
Je crois que c'était une référence à la Belgique.
À la Suisse.
Ou bien, ou bien,
ou bien une fois.
On embrasse nos auditeurs belges qu'on adore, qu'on kiffe.
Les thèmes principaux de l'album sont l'angoisse, le désespoir, la mort et Dieu. Voilà. Voilà, voilà. Hein, c'est pas forcément l'album pour faire la grosse fête, mais bon. Il n'y a presque pas de promo, pas de hit single ni d'entrée dans les charts. L'album reste à l'écart du Billboard et ne fait pas beaucoup de bruit à sa sortie. Il est toutefois très bien accueilli par la critique. Il apparaît dans le top de fin d'année du journal américain Village Voice. Leur rédac-chef trouve Eliott Smith, je cite, « mélodieux mais dépressif » et estime qu'il pourrait tout aussi bien être populaire mais il ne veut pas l'être, c'est tout.
Les Américains, si c'est pas du Britney Spears, c'est
ah bah
dépressif,
voilà,
quoi.
C'est ça.
On les emmerde.
On embrasse les Américains.
Et on embrasse nos amis américains qui nous écoutent depuis Portland. Bisous.
Et puis, en 96, Smith fait la rencontre qui va tout changer. Il devient ami avec Gus Van Sant, qui, lui aussi, vit à Portland. Ce dernier lui propose d'inclure plusieurs titres dans la bande originale de son prochain film, Will Hunting. Eliott Smith accepte. Gus Van Sant, c'est pas Hollywood, c'est juste un pote.
Will Hunting, c'est le film qui a révélé Matt Damon et Ben Affleck. C'est eux qui avaient écrit le scénario, ils sont tout jeunes et c'est un excellent film.
Ah ouais.
Eliott Smith enregistre en plus une chanson originale, Miss Misery, et une version orchestrale de Between the Bars, avec des arrangements de Danny Elfman, le compositeur attitré de Tim Burton. Un titre de Ramon Candle, No Name No. 3, et deux de Either Or, Angeles et Stay Yes y sont aussi ajoutés. Le film rencontre un énorme succès auprès de la critique et du public. Eliott Smith est même nommé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale. Il accepte de venir jouer lors de la cérémonie. De toute façon, on lui a bien fait comprendre que si c'est pas lui qui chante la chanson, eh ben ce serait un autre. Le 23 mars 1998, Eliott Smith fait face à des dizaines de millions de téléspectateurs et au tout Hollywood. Il débarque sur scène en costume blanc, froissé, un peu trop grand et les cheveux sales.
live from Los Angeles, California, the 70th Anniversary Academy Awards. The stars are out tonight in all their glory to celebrate Oscar's 70th anniversary here at the Shrine Auditorium in Los Angeles.
Le soir de la cérémonie des Oscars, je n'arrivais pas à imaginer que c'était de moi qu'on parlait en des termes si élogieux. C'est un milieu auquel je ne peux pas appartenir. Ça a été une expérience irréelle. Je me suis senti comme une bête de foire, le monstre de service. Ce fut comme un trip étrange à l'acide.
Johnny Walker Red, send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. With two tickets torn in half and a lot and nothing to do, do you miss me? Miss misery, like you say you do. I know you'd rather see me gone than to see me the way that I am when I am in the life anyway. Next door, the TV's flashing blue. Frames on the wall, it's a comedy of errors you see. It's about taking a fall to vanish into oblivion. It's easy to do, and I try to be. But you know me, I come back when you want me to. Do you miss me? Miss misery like you say you do.
Finalement, l'Oscar est remporté par James Horner et Will Jennings pour My Heart Will Go On, chanté par Céline Dion pour le film Titanic. Mais cette chanson va faire passer Elliott Smith des bars confidentiels de Portland à la renommée mondiale. La presse fait d'Elliott Smith le beautiful loser du moment. J.D. Beauvallet écrit dans les Inrock.
Tous les 20 ans, la cérémonie des Oscars invite le clodo de service, le paria à peine sortable à dîner à la table des maîtres. Avant de leur envoyer Fissa à son mal-être et à des albums intimistes et douloureux, si loin des paillettes et des sourires appris. La dernière fois, c'était le pauvre Elliott Smith qu'on avait déguisé en smoking.
Lui qui est apparu un peu par hasard avec sa guitare et sa voix dans une époque tournée vers le grunge et le rock saturé. Il passe d'un coup de l'underground à la célébrité. Ce sera trop. Il ne se considère pas comme taillé pour devenir une star, il a toujours pensé qu'il ne méritait pas le succès.
Pourquoi moi ? La plupart des gens que je connais dans des groupes écrivent des chansons qui méritent au moins autant que celle-là de grimper dans des charts. On ne les laisse même pas enregistrer, alors que quand j'allume la radio, je n'entends que des chansons qui ne méritent pas d'être là. Je ne veux pas que les miennes les fréquentent. Je ne compte que pour du beurre dans mon succès. D'autres ont décidé pour moi. Si ça ne tenait qu'à moi, je continuerais d'enregistrer mes disques à la maison.
Mais non, Elliott, tu mérites.
Bon, comme vous le voyez, il entretient un rapport assez compliqué avec son succès et la chanson qui l'a provoqué. Il ne joue jamais Miss Misery en concert. Il évite même d'en parler tellement il refuse d'être associé à ce titre. Il contourne systématiquement la question dans les interviews, préférant évoquer son indifférence à l'encontre des critiques.
J'essaye toujours de résister au fait d'être affecté par ce qu'on peut dire de moi, en bien ou en mal. Quelque part, ça m'ennuie toujours un peu, mais désormais, je ne lis plus rien sur moi. Je ne veux plus débattre sur l'idée que certains ne me résument qu'à de la musique mélancolique.
Il finit par déménager à Brooklyn, puis à Los Angeles, pour fuir ce succès et un amour perdu. Assez rapidement, il sombre dans la dépression, l'alcool et la drogue. Le début des années 2000 est assez compliqué. Il alterne entre des périodes très noires et des moments où il semble aller mieux. Ses amis sont inquiets. Et à juste titre, car vous vous en doutez un peu, cette histoire finit mal. Elliott Smith meurt le 21 octobre 2003 à Los Angeles à l'âge de 34 ans, de deux coups de couteau à la poitrine au cours d'une dispute avec sa copine de l'époque, Jennifer Shiba. Suicide ou homicide, l'enquête n'a jamais permis d'établir les circonstances du drame. Poète au cœur de punk, aussi génial que torturé, le nom d'Elliott Smith s'ajoute à la liste des artistes un peu trop talentueux, morts un peu trop jeunes.
Bah ouais, Nick Drake, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jeff Buckley, tous mes préférés. C'est horrible.
Ils y sont tous passés, quoi. Alors c'est marrant parce que de son vivant, tout le monde ou presque se foutait d'Elliott Smith, mais il a quand même creusé son sillon loin des radars et aujourd'hui, Either Or s'est vendu à près de 500 000 exemplaires. Hein. C'est pas rien. Alors il n'était pas classé, mais 500 000 exemplaires, c'est ce qu'il a fait au bout de 20 ans. Et sa reconnaissance, il a vraiment eu à titre posthume ses titres de noblesse, ses chroniques dithyrambiques dans Rolling Stone ou dans Pitchfork. En fait, elles sont arrivées bien plus tard quand l'album a été réédité en 2017. Voilà, mieux vaut tard que jamais, quoi. Allez, je me tourne maintenant vers toi, Greg, pour parler des coulisses de ce disque culte qui est un moment charnière dans la carrière, mais aussi dans la vie d'Elliott Smith.
Oui, on l'a vu avec Olivia, Elliott Smith, en ce milieu des années 90, c'est un chanteur un peu schizophrénique, à la fois chanteur du groupe grunge punk Heath Miser, et en même temps, songwriter sensible, qui commence à se faire un nom avec des titres acoustiques dépouillés et un peu monochromes. Et avec son troisième album, Elliott Smith trouve une sorte de troisième voie entre ces deux approches, un esprit folk lo-fi et intime, faisant la part belle à la guitare, mais agrémenté cette fois d'ornementation pop-rock, une direction qui commence à se dessiner sur certains titres composés pour le dernier album qu'il enregistre avec Heath Miser. Écoutez plutôt ce Plainclothes Man sorti en 1996 et qui aurait tout à fait pu figurer sur le disque solo d'Elliott Smith.
Ce morceau est génial.
En fait, à chaque fois qu'il y a un morceau qui se termine,
ce morceau est génial.
C'est génial, c'est le meilleur. Non, c'est celui-là le meilleur.
Oh
en fait,
là
non,
là,
j'aime
incroyable.
Plus encore que celui-là.
Non, c'est vraiment celle-là ma préférée.
Alors, j'ai parlé d'un album charnière sur le plan créatif, mais cela l'est aussi sur un plan personnel. Either Or, c'est le dernier album de l'époque Portland, avant qu'Elliott Smith emménage à New York. C'est aussi le moment où il quitte définitivement Heath Miser et se sépare de sa fiancée, Johanna Bolm. Bref, un moment où plus rien ne le retient à Portland. C'est aussi durant cette période qu'il compose Miss Misery, le titre qui va lui apporter une célébrité mondiale.
Alors d'ailleurs, c'est chez cette fiancée, qui est musicienne aussi, Johanna Bolm, qu'une partie de l'enregistrement aura lieu.
Oui, Johanna Bolm, c'est une multi-instrumentiste, figure de la scène indé de Portland. Elle est notamment la bassiste de Stephen Malkmus and the Jicks, la formation qui a pris la suite au tournant des années 2000 du groupe culte Pavement. Elliott Smith commence donc à enregistrer certaines chansons de l'album dans l'appartement de Johanna et dans celui de la chanteuse et amie, Mary Lou Lord, mais également à son domicile, avant de poursuivre chez le producteur et ingénieur du son Larry Crane, avec lequel Smith construira un studio d'enregistrement, Jackpot, qui ouvrira en février 1997, le mois de la sortie de l'album.
Jackpot, du coup, c'est le nom du studio, hein, c'est ça ?
C'est le nom du studio, exactement.
C'est pas un commentaire. Okay.
Je vous propose d'écouter tout de suite cette rare interview d'Elliott Smith qui évoque cet enregistrement. C'était sur la radio KCRW en 1997. Interview, enfin, on entend surtout le journaliste parler. Elliott Smith lui répond généralement par un murmurant d'une ou deux phrases.
Quand on écoute l'album, on a l'impression que cela a été fait à la maison sur un 4 pistes. C'est bien ça ?
Oui, 4 pistes, 8 pistes maintenant, et même 16 en ce moment, je monte en grade.
On sent que vous vouliez garder ce côté intime, fait à la maison.
Oh, not necessarily, but It kind of turns out that way.
Pas nécessairement, mais au final, c'est le résultat.
I can't get that picky about how it turns out.
Vous savez, je ne sais jamais trop ce que cela va donner. Je ne suis pas.
Not a,
je ne suis pas du genre Elvis Presley.
Elvis Presley.
Je ne sais pas comment les choses vont tourner à l'enregistrement.
How it turns out is how it turns out.
Moi, je me souviens d'avoir lu que certains journalistes disaient que c'était une angoisse absolue de l'interviewer. Et ça s'entend dans l'extrait.
Ouais, je pense ça.
Tu sors les rames.
Non, mais encore, ce journaliste, il est hyper bienveillant. Enfin, tu vois, il est. Si vous écoutez, vous pouvez retrouver l'interview sur YouTube. Je trouve qu'il s'en sort assez bien. Parce qu'il est pas. Il a pas l'air déstabilisé. Il a toujours une question, voilà, sous le coude. Et parce que vraiment, ça a l'air très très compliqué.
Ah ouais,
ça a l'air très compliqué.
Et puis après, c'est l'art du montage. Hein. On peut enlever tous les silences. Alors sur Either Or, on retrouve ce qui fait la signature sonore d'Eliot Smith. Greg.
Oui, une guitare accordée un ton en dessous de l'accordage standard. On a déjà vu que cela se fait beaucoup dans les années 90, car certains producteurs pensent que les guitares sonnent mieux ainsi à l'enregistrement. Dans le cas d'Eliot Smith, il s'agit aussi sans doute également d'une question de tessiture de voix. En accordant plus bas la guitare, il n'a ainsi pas besoin de pousser trop dans les aigus. L'autre particularité du son d'Eliot Smith, c'est de doubler à chaque fois les guitares et les voix, et cela donne cet effet enveloppant et si caractéristique, exemple avec ce Ballad of Big Nothing.
De dire que j'adore ce morceau.
Je l'attendais, je me suis dit, je suis sûr, elle va le sortir. Quoi.
Mais pour de vrai, j'adore ce morceau.
La groupie girl.
Mais grave. Tu mettras 5 étoiles, s'il te plaît, hein, sur cet épisode sur Apple Podcast.
J'ai vraiment hâte de savoir ce que Fanny a pensé de lui.
Alors, Ballad of Big Nothing, c'est l'un des sommets de l'album. Il y a un morceau très rock-pop avec de la basse et de la batterie, relativement éloigné des premiers morceaux folk d'Eliot Smith.
Oui, et c'est ça qui rend cet album unique dans sa discographie. Tout en conservant un dispositif folk lo-fi, Smith y ajoute guitare électrique, clavier, batterie, basse et chœur. C'est d'ailleurs lui qui joue tous les instruments pour créer cet album pop qui frise la perfection par ses arrangements délicats, ses progressions d'accords inattendues et sublimes. À l'époque, Smith nourrit d'ailleurs une obsession pour les Beatles et en particulier pour leur 9e album, le Magical Mystery Tour, dont on écoute ici Your Mother Should Know. Let's all get up and dance to the song that was ahead.
Pictures of Me d'Eliot Smith dans Radio Cassette.
La passion de Elliott Smith pour les Beatles, elle date vraiment de sa prime jeunesse. C'est son père qui lui a fait découvrir. Son père, c'était un gros hippie qui rentrait du Vietnam. Ouais. Et il raconte que quand il a découvert le White Album, ça a été vraiment son épiphanie. Il a vécu un moment de transe absolue et ça l'a poursuivi toute sa vie. Les Beatles, c'est vraiment son groupe doudou, c'est son groupe fétiche. Il y revient systématiquement.
Je m'étais jamais rendu compte de la filiation, mais maintenant que Grégoire vient de le démontrer avec ce petit extrait, c'est clair et net. Et effectivement, je comprends pourquoi les morceaux fonctionnent aussi bien. En fait, la simplicité de la pop, c'est parfait, quoi.
Alors, Greg, on a parlé de la partie de l'enregistrement qui s'est déroulée à Portland, mais il y a aussi des titres qui ont été enregistrés en Californie.
Oui, en Californie, et plus précisément dans le studio The Shop de Rob Schnapf et Tom Ruffrock, où Hitmiser a enregistré son ultime album. Tom Ruffrock, il a la particularité d'avoir produit le tube Loser de Beck en 1993, le premier titre indé à atteindre le top 10 des singles aux États-Unis. C'est donc là-bas qu'Elliott Smith peaufine son chef-d'œuvre et enregistre trois monuments de l'album, Angeles, Say Yes, bijou pop qui conclut l'album sur une note d'optimisme, on va dire, et enfin Between the Bars, morceau déchirant sur son addiction à l'alcool, un titre qui joue sur la polysémie du mot bars en anglais, cela peut vouloir dire faire la tournée des bars, mais aussi se retrouver prisonnier, être derrière les barreaux. On retrouve ici tout le génie d'écriture d'Elliott Smith entre cynisme et romantisme, qui personnifie ici un verre d'alcool qui ne demande qu'à être bu.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. I'll make you okay and drive them away. The image is stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still.
Que j'ai le droit de dire que c'est moi qui adore ce morceau cette fois.
Oui.
On retrouve dans ce titre une tension qui traverse tout cet album constitué de morceaux pop parfaitement construits, mais en même temps avec une forme d'imperfection et de fragilité, une contradiction entre harmonie et dissonance qui rend ce disque bouleversant et indémodable. Et pour conclure, je vous propose d'écouter le titre Either Or, qui a finalement été écarté de la tracklist finale. Le titre apparaît toutefois sur New Moon, l'album posthume d'Elliott Smith.
You're strong, you're stubborn now. Bitter, listen, symbolic war. Brave or poor, either or. Sometimes a ricochet from the past and the times a future I've already had before. Champion or chore, either or. I write the pages you rip out back in their places again. One day you'll know what you're talking about. I can hardly imagine, and until then I'll be filling in these blanks that you create every time you win some petty score. Posing as hardcore, oh yeah, either or.
Alors, Merci Greg de nous avoir emmené dans les coulisses de cet enregistrement. Alors on vient de découvrir un artiste donc discret hein, qui fait tout lui-même avec un côté hyper artisanal et lofi. Est-ce que c'est pareil Fanny du côté de la pochette de l'album ?
Oui, évidemment, il y a une spontanéité, une authenticité dans la pochette Deezer Or qui est très représentative des productions musicales de la scène indé. Ici, pas de photographe célèbre, pas de graphiste prestigieux, ni de séance photo professionnelle comme j'ai pu décrire dans plein d'autres épisodes de Radio Cassette. Dans les crédits du disque, il y a écrit « Photo avant » par Debbie Pastor, « Photo arrière » par Johanna Bolm, « Mise en page » par Neil Gust. Alors Neil, c'est son ami de la fac avec qui il fonde It Miser en 91. Johanna, c'est la fameuse petite amie pour qui il va écrire le magnifique « Say Yes ». Et Debbie Pastor, qui a pris la photo en couverture de l'album, c'est une ancienne chef déco reconvertie dans la musique qui va bosser pendant une dizaine d'années comme tour manager de groupes phares de la scène indé comme Pavement ou Sebado, des noms qu'on a évoqués tout à l'heure. En 96, Sebado est en tournée pour défendre son album Armacy. Elliott Smith fait leur première partie sur quelques dates. Le soir du 16 septembre, ils se produisent à Tempe, Arizona, dans une petite salle qui n'existe plus, appelée Gibson's. Debbie Pastor est là avec son appareil photo. Elle a l'habitude d'immortaliser les concerts, les backstage, et décide de photographier tour à tour Elliott puis Sebado devant un grand miroir recouvert d'écritures taguées au marqueur comme on en trouve dans plein de chiottes de bars ou de salles rock. Il y a quelques années, le chanteur de Sebado, Lou Barlow, a posté les deux images à coller sur Facebook en racontant cette histoire. Je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux de Radio Cassette.
Merci Fanny. Alors tu parlais du miroir tagué. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'on voit d'autre sur la pochette ?
Of course. Donc cette photo, c'est un simple portrait d'Elliott Smith. Il est entièrement lui-même, sans artifice, comme dans ses chansons. L'image est prise en légère contre-plongée. On voit Elliott de trois quarts dans la moitié droite de l'image, assis sur une chaise avec le miroir qui reflète son dos. Il tient une cigarette à la main, porte une casquette de la compagnie d'hélicoptères Helljet, un t-shirt noir à l'effigie du chanteur Hank Williams Jr. et on distingue sur son biceps droit un tatouage qui représente un taureau qui mange une fleur. En 98, J.D. Beauvallet interroge Elliott Smith sur la signification de ce tatou pour un papier dans les Inrocks. Smith lui répond.
C'est Ferdinand, le personnage d'une histoire pour enfants. C'est le seul taureau qui aime sentir les fleurs, et quand le matador vient choisir les bêtes de combat les plus virulentes dans le pré, il repère Ferdinand. Le pauvre vieux vient de se faire piquer par une abeille en reniflant une fleur et il saute dans tous les sens. Il est donc sélectionné pour la corrida car tout le monde croit qu'il est le plus brutal. Mais dès le début du combat, les spectateurs lancent des fleurs dans l'arène et lui se baisse pour les sentir. Il ne se rend même pas compte qu'il est censé se battre. Dépité, le matador le ramène dans son champ, où il vit vieux et heureux parmi les fleurs. On le prend pour un simplet, mais il a réussi à passer à côté d'une mort certaine. On le prend pour un raté parce qu'il refuse la bagarre, mais je sais que ce n'est pas vrai. Il veut juste vivre hors du système. Je me reconnais beaucoup dans Ferdinand.
Eh ben, et nous aussi, hein. Franchement, c'est fou. Hein. C'est vraiment un peu l'histoire de sa vie, pas tout à fait la même fin pour Ferdinand et pour Elliott. Mais c'est marrant, il y a vraiment un truc. Quoi.
J'aime bien cette histoire.
Ouais, elle est chouette.
C'est mignon. Alors, j'ai cherché la référence exacte. L'histoire dont parle Elliott Smith, c'est celle de Ferdinand le taureau, un petit dessin animé de 7 minutes sorti par Walt Disney en 1938 et qui est l'adaptation du livre pour enfants, l'histoire de Ferdinand de Munro Leaf, paru en 1936.
Il y a une nouvelle version, là, il y a quelques années, qui est sortie.
C'est vrai ?
Ah ouais ? Ouais.
Moi, j'avais jamais entendu parler de cette petite fable.
Ben, la même histoire. Un petit taureau qui aimait les fleurs. Je vous invite à regarder le dessin animé. Voilà.
Ok, ça va. Tu nous mettras le lien également sur les réseaux sociaux, s'il te plaît.
Voilà, donc que vous dire d'autre encore sur cette pochette ? Pour trouver des infos, je suis allée creuser jusqu'au forum de Reddit où des fans essayent de déchiffrer en vain les graffitis présents sur le miroir. On peut lire Lemon quelque chose, Lemon Crazy peut-être, est-ce que c'est le nom d'un groupe, d'un cocktail maison ? Impossible à dire. Aucune info non plus sur la photo de Johanna Bolm présente au dos du disque, un cliché en noir et blanc qui représente un chandelier en verre très contrasté. Ma dernière anecdote concerne le livret intérieur, un dépliant noir et blanc tout simple avec les paroles de chansons reproduites dans une typographie qui ressemble à une machine à écrire.
Alors, les chansons, elles n'y sont pas toutes, hein, on a seulement les paroles de 11 morceaux sur les 12 de la liste.
Ouais, c'est la petite bizarrerie de l'affaire. Dans le livre Can't Make a Sound de Thierry Jourdain, j'ai appris que les paroles de la chanson Cupid Streak n'ont pas été reproduites dans le livret. Alors, pourquoi ? En 98, Smith déclare en interview.
Elles n'étaient pas très bonnes et je ne me rappelais pas vraiment pourquoi je les ai écrites. Elles ne sont pas dans le livret aussi parce que cette chanson n'est pas basée sur les mots mais elle est basée sur la manière dont elle sonne. J'ai souvent réécrit les paroles pour tenter de donner plus de sens, mais ça tuait le propos, alors je l'ai juste laissée comme elle était à la base.
Donc je suis allée lire ses paroles, effectivement, elle raconte une histoire un peu moins construite que les autres chansons. C'est un peu métaphorique, un peu absurde, mais il y a 1000 autres auteurs qui sont posés vachement moins de questions que ça dans l'histoire de la musique. Ce choix, il transpire l'insécurité et il est très symptomatique des doutes qui habitaient Elliott Smith en permanence.
Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça.
Alors, je crois qu'on a fait le tour de la pochette. Est-ce qu'il y a des clips dont tu vas pouvoir nous parler maintenant, Fanny ?
Écoute Manu, pour la première fois de l'histoire de Radio Cassette, je fais Chou Blanc. Ah. Cet album, c'est peut-être l'album le moins commercial dont on a parlé depuis nos débuts. Et en plus, Elliott Smith, c'est l'artiste le plus discret, le plus secret et mal à l'aise avec les médias et la promo qu'on a vue jusqu'ici. Oui, encore plus discret que Mylène Farmer, je réponds d'avance aux auditeurs qui voudraient nous vanner là-dessus. Donc tout ça pour dire que pour une fois, non, il n'y a pas de clip. D'ailleurs, Smith n'en a tourné que très peu dans sa carrière, j'en ai listé 4 en tout. Peut-être qu'il en manque, mais pas beaucoup à mon avis. Il y a une vidéo pour Coming Up Roses sur l'album éponyme précédent, une pour Miss Misery en marge de la sortie du film Will Hunting, une pour Baby Britain sur l'album XO et une pour Son of Sam sur Figure 8. Mais je ne voulais pas vous laisser totalement bredouille pour clore ce chapitre sur l'image d'Elliott Smith, donc j'ai eu envie d'explorer ses liens avec le cinéma, puisque c'est un sujet que j'adore, qu'on peut tracer des ponts entre la musique et les autres arts.
Ah, et donc en dehors de ta collab avec Gus Van Sant, alors qu'est-ce qu'il y a à en dire ?
En 97, on l'a vu, le film Will Hunting et sa BO place Elliott Smith sous les projecteurs et le vit assez mal. Il se retrouve sur la scène des Oscars en mode « mais qu'est-ce que je fous là ?» total. Pour autant, il ne va pas arrêter de collaborer avec le cinéma. En 99, on le retrouve sur la BO de la pépite American Beauty de Sam Mendes avec le titre « Because », une reprise des Beatles.
The world is round, it turns me on. Because the world is round, the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Ah, love is old, love is new.
Pour l'énorme fan des Beatles qu'il est, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Il commence le morceau a cappella, on vient de l'entendre, et crée des harmonies de plusieurs voix, comme un chœur en se doublant lui-même. Les techniques et elles-mêmes héritées des Beatles, c'est omniprésent dans son travail, Greg l'a très bien montré tout à l'heure. Donc cette reprise de Because est utilisée pour le générique de fin du film, généralement un moment qui reste gravé dans la tête du spectateur. Et puis American Beauty connaîtra un énorme succès, remporte des dizaines d'Oscars, de Grammys, de BAFTA. Bref, encore une très grande exposition pour la musique d'Elliott Smith.
Et en 2001, cette fois, il va croiser la route de Wes Anderson.
Ouais, Wes Anderson travaille alors sur son troisième film, La famille Tenenbaum, et le contacte pour enregistrer une autre reprise des Beatles, Hey Jude. Un travail pour lequel il est payé le minimum syndical et qui ne sera finalement même pas utilisé dans le film. À la place, Wes Anderson sélectionne la chanson Needle in the Hay, qu'on a écoutée tout à l'heure, pour illustrer une scène dans laquelle l'acteur Luke Wilson tente de se suicider. Elliott est mortifié. Il déclare que c'est la dernière chose à laquelle il aurait voulu que cette chanson soit associée. Ce genre de raccourci contribue à lui donner une image sombre qui lui colle à la peau, évidemment amplifiée par sa mort dans des circonstances troubles qu'on a évoquées. Dans un article de 2001 au magazine Magnet, il déclare, et j'ai envie de terminer là-dessus, « Je ne préfère pas qu'on me voie comme quelqu'un de dérangé. Beaucoup de personnes pensent que je suis une sorte d'artiste torturé, mais ce n'est absolument pas qui je suis. Il n'y a rien qui cloche vraiment avec moi. J'ai juste parfois de mauvais moments.
Petit chat. Bah, c'est triste, c'est tristoun. Il est trop touchant ce garçon, non ?
Il est ultra touchant. Moi, c'est bon. On peut passer à la conclusion. Non,
ça va donner notre avis. Il y a beaucoup d'émotions pour Fanny. C'est un moment qui est un peu difficile à gérer. On va enchaîner. On va enchaîner. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de Either Or, la vie et la mort d'Eliott Smith, je voudrais avoir votre avis. C'était comment d'écouter et de réécouter cet album. Je sais pas. On va commencer par toi, Oli.
Alors, moi, je l'ai dit. Je connaissais pas grand-chose d'Eliott Smith. Je ne comprends pas pourquoi je ne connaissais rien d'Eliott Smith, parce que c'était presque... Ça aurait dû être une rencontre que... Enfin, j'aurais dû la faire bien avant. C'est un non-sens pour moi. C'est exactement le genre de musique que j'écoute. C'est exactement le genre de mélodie qui m'arrache le cœur et le broie en petits morceaux. Donc, voilà.
Bon, vous êtes un peu raté, quoi.
On s'est raté, on s'est retrouvé. Je remercie Radio Cassette pour ce moment. Non, c'est... Voilà, j'ai adoré. J'ai écouté compulsivement tout l'album. Depuis que je travaille dessus, son destin m'a bouleversée. Il est impressionnant par la personnalité qu'il avait et comme en effet il a essayé de s'en sortir et ben ça a pas marché, il a pas réussi. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment
Que du kiff, quoi.
Ouais, voilà, on va dire ça. Mais bon, c'est étonnant, c'est une c'est la première fois que Radio Cassette me fait complètement découvrir un artiste. D'habitude, je connaissais de réputation, mais là, j'ai vraiment découvert tout un univers musical.
Eh bien, tu sais, Oli, il n'y a pas de hasard. Hein. Si on a choisi cet artiste, c'est parce qu'il mérite d'être découvert. Et je passe tout de suite le mic à Greg. Greg, alors, ça t'écoute ?
Génial. Enfin, c'est un album que j'écoute relativement régulièrement. C'est pas comme si je l'avais totalement redécouvert. Et pour moi, c'est un album quasiment parfait. Voilà.
Ah ouais ?
Ouais.
Un 10 sur 10 comme Pitchfork.
Comme Pitchfork, ouais. C'est un des rares albums à avoir eu 10 sur 10 effectivement sur Pitchfork. Et ouais, je suis pas loin de penser ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'album parfait. Et je comprends l'obsession que nourrissent certains fans sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont encore qui s'en remettent pas de la mort d'Eliott Smith. Qui ne comprennent pas pourquoi il est mort, et c'est vrai que le fait que ce soit encore un peu mystérieux, ça les bloque, parce que je peux comprendre ça, parce qu'on se demande Eliott Smith, mais quelle musique il ferait aujourd'hui,
quel personnage ce serait,
qu'est-ce qu'il aurait à dire sur le monde dans lequel on vit. Enfin, ça reste un espèce de gros point d'interrogation, parce qu'on se dit qu'il y avait un tel potentiel, il avait tellement de choses à faire encore.
Je trouve que c'est vraiment horrible.
Ouais.
Je veux dire, c'est comme une espèce d'une revanche par l'ironie, parce que ce gars, tu te dis, tu lis son histoire, c'est sûr que ça va mal finir. Bah ouais, ça finit mal. Enfin non, mais tu vois, c'est horrible.
Non, mais oui, c'est horrible, mais c'est
horrible. D'habitude, tu dis, bon non, il va se passer un truc, dans un film américain, il va se passer un truc.
T'attends la happy end, quoi. Ouais. Tu voudrais qu'en fait, le film s'arrête au moment où, en fait, aux Oscars, en fait, et le gagnant est. Et puis ça s'arrête là.
La vie ne nous déçoit jamais, quoi. C'est boum, c'est horrible. Je trouve ça vraiment tragique.
Voilà, en tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs albums des années 90. Il est dans mon top 10, c'est clair et net.
Un des meilleurs albums qu'on a fait dans Radio Cassette.
Le meilleur.
Allez,
Pourtant, Ace of Base, j'avais l'impression que t'avais quand même.
Ouais, c'est marrant, c'est ça.
Allez, Ace of Base en deux.
Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais.
Juste avant l'enregistrement, Greg me disait, mais est-ce que c'est quand même pas plus le kiff d'avoir Ballad of Big Nothing dans la tête toute la journée plutôt que All That She Wants?
Oui, mais c'est parce que c'est son rôle un peu de se draper dans cette fierté. Mais...
Ouais. Non, moi, je vous rejoins tous. Bon, cet album, moi, il m'accompagne depuis longtemps. Il m'a jamais quitté. Je l'écoute très, très régulièrement. Là, évidemment, sachant qu'on allait se plonger dedans, je l'ai écouté encore plus et je continue de l'adorer. Pour moi aussi, c'est l'album parfait. Même si je devais amener juste trois albums sur une île déserte, il serait dedans. J'ai pas encore tranché pour les deux autres, mais il est dedans.
Attends, on va écouter les anciens épisodes. Tu nous as déjà dit ça.
Nirvana.
Moi, je pense que des albums numéro 3, vous voyez, il y en a au moins 5. Hein, donc, va falloir que tu fasses un tri, ma vieille.
Bon, il est dedans. Voilà, je l'emmène avec
moi. Ok, ça c'est gravé. On plastifie la liste. On y va.
Je veux l'écouter toute ma vie jusqu'à la fin. Quoi. J'aime cet album. La tracklist est parfaite. L'écriture d'Eliott Smith, elle est très très particulière. Elle est incroyable. Pour le coup, j'avais jamais épluché les paroles. Là, pendant que j'écoutais les morceaux sur Spotify, il y a les paroles. Donc je regardais ça et je me disais, son écriture est très originale. Sa voix me touche, je sais pas, en fait, tout est parfait.
À la fin de l'heure, je sais pas, tout est parfait, voilà, c'est tout.
En fait, non, ce qui me touche, c'est que Il y a rarement des artistes dont, quand tu es confronté à leur travail, tu sais à 100% que c'est des gens mais authentiques. Il n'y a aucun doute.
Ça, on ne peut pas revenir là-dessus,
voilà,
c'est sûr.
Voilà. Ouais. Et ça, tu vois, il y a ce feeling d'être dans une forme en face d'une forme de pureté.
Ouais.
Tu l'as que très rarement. Et moi, il y a très peu de musiciens qui me font ça. Il y en a un ou deux autres qui sont d'ailleurs tous mes musiciens préférés, notamment Christopher Owens du groupe Girls. Et si on a des auditeurs qui ne le connaissaient pas, j'espère que pour vous, ce sera une découverte, une bonne découverte. Et si c'est une bonne découverte pour vous,
dites-le nous,
dites-le moi, parce qu'il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir.
Oh, c'est bientôt son anniversaire, donc
pas du tout.
Non, mais c'est pour que les gens te répondent que je dis ça.
Ouais. Mais non, sinon, évidemment, reco pour ceux qui sont peut-être déjà fans, il faut absolument regarder le documentaire Heaven Adores You, qui est super bien fait, et juste voir Elliott Smith parler en interview. Et voilà,
et c'est justement des fans qui se sont qui ont fait une espèce de collecte.
Ils ont fait une cagnotte litchi.
Voilà, ouais. À l'époque, ouais. Je crois que ça n'existait pas.
Crowdfunding. Ouais.
Ils ont fait un gros crowdfunding pour produire ce docu.
Et c'est un super documentaire. Donc vraiment, s'il y a des gens qui l'aiment, regardez-le. Et ma petite reco perso, c'est une reprise de Ballad of Big Nothing qui est visible sur YouTube par le groupe Dive.
Ouais, j'étais sûr que t'allais dire ça.
Et voilà, j'avais
super
adoré
groupe
cette
et
vidéo.
Super reprise.
Et ouais, elle est sortie il y a quelques années, mais je l'adore. Voilà, je vous la recommande.
Eh ben, écoute,
et toi Manu alors Elliot,
t'as détesté, t'as trouvé ça naze?
Ouais, vraiment c'était nul. Non c'était super, j'étais content parce que j'étais pas trop rentré dedans à l'époque, ça a toujours été un peu là sans être là, et je me suis vraiment plongé dedans, et en fait il y a une part de mystère dans pourquoi c'est aussi bien. Et en fait il y a en dehors du personnage etc, on a beaucoup parlé de son personnage, de son histoire, c'est dans sa musique où en fait il y a une espèce de simplicité et une espèce de d'évidence, et en même temps il y a quelque chose qui est tout sauf bête et tout sauf con, et qui arrive à chaque fois à toucher. Et moi c'est ça où je trouve ça hyper fort, c'est que il y a un côté pop, et en même temps c'est pas si simple que ça, voilà. Et j'ai
non,
pas encore percé
pas
le
si
truc
que ça.
J'ai pas percé, je sais pas comment c'est fait. Il y a les voix, il y a ça, mais il y a pas que ça, il y a d'autres trucs.
On parlait du morceau dans la chambre d'Olivier en début d'émission, avec ce côté comédie musicale un peu jazz, mais si vous regardez certains accords de Either Or, c'est des accords de jazz.
Ah ouais,
ouais, il y a des accords qui sont pas si courants dans la pop, qui sont relativement complexes. Et il y a des progressions d'accords dans Either Or qui sont très inattendues et vraiment très très cool, quoi. On parlait des Beatles, pareil, les Beatles, ils ont des progressions d'accords de malade. Mais très franchement, dans Either Or, t'as des progressions, c'est vraiment des petits bijoux, quoi. Donc c'est pas si simple, c'est pas un album si simple
pas,
que
ouais.
ça.
Ouais. Ouais.
Et après, pour le remettre un petit peu dans la suite de sa discographie, moi cet album je le trouve hyper intéressant parce qu'il est vraiment charnière. J'ai écouté ce qu'il a fait les deux albums d'avant, qu'on a écouté un petit peu avec toi Olivia tout à l'heure. Bon, ça manque un petit peu de quelque chose. Celui-ci commence à rajouter de l'orchestration et on va l'avoir beaucoup par la suite. Et je le trouvais peut-être parfois un peu trop pop, un peu trop mielleux, un petit peu trop orchestré. Et là, en fait, cet album, je trouve qu'il arrive vraiment à synthétiser ces deux côtés-là. Et je trouve ça vraiment formidable.
Et en début d'émission, on citait pas mal de musiciens qui appréciaient Elliott Smith. En fait, c'est un musicien qui est très apprécié des autres musiciens. Et c'est aussi beaucoup par le bouche à oreille dans le milieu de la musique qu'il s'est fait connaître. Et il y a notamment Frank Ocean, assez récemment, sur l'album Blonde, qui est son album pas mal connu. Il y a un morceau qui s'appelle Siegfried. Et dans cet album, il reprend mot pour mot des paroles d'Elliott Smith. C'est « This is not my life, it's just a fond farewell to a friend ». Et c'est extrait de « A fond farewell », qui est une chanson d'Elliott Smith qu'on trouve sur « From a basement on a hill ». Donc,
c'est hyper marrant qu'effectivement ce soit un mec dans un univers complètement différent 30 ans plus tard.
Qui est aussi la référence.
Qui est aussi la référence, c'est hyper marrant.
Ouais, c'est fou, hein.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album avec le Cassette Crew, avec Fanny,
yes.
Greg Sauvage,
hey, bye bye.
Et Olivia.
Bye.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram et sur notre tout nouveau site web. On a aussi envie de vous entendre, hein, et ça tombe bien parce qu'on vous donne la chance de nous laisser un message, de nous chanter une chanson, de nous envoyer un SOS sur notre répondeur cassette. Ça se passe au 01 89 16 75 31. On va écouter les derniers messages dans un instant. Allez, on se quitte maintenant avec Say Yes, gros bisous et cœur avec les doigts.
Bye
bye,
bye,
bye, bye.
Ciao, ciao. Bisous,
ciao.
À bientôt.
I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. We broke up a month ago and I grew up, I didn't know.
know I'd be around the morning after. It's always been wait and see, a happy day, and then you pay and feel like shit the morning after. But now I feel changed around, and instead of falling down, I'm standing up the morning after. Situations get fucked up and turned around sooner or later. Exception to the rule, you tell me the morning after. Cricket spin can't come to rest. I'm damaged bad at best. She'll decide what she wants. I'll probably be the last to know. No one says until it shows. See how it is. They want you or they don't. Say yes. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after.
Ouais, je vous laisse un message ici. Je pensais à un super groupe pour faire prochainement dans les mois qui viennent une petite émission radio cassette. C'est Sublime, un super groupe de ska punk reggae qui a bercé mon adolescence avec des titres comme What I Got, voilà, avec le chanteur en plus qui est mort tragiquement. Donc je pense qu'il y a matière à raconter des trucs dessus. Voilà, c'est une petite idée. J'écoute vos émissions de podcast tous les jours au taf, donc c'est mortel. Continuez comme ça la team, à toutes.